vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Laetitia Gaillet pour vous informer.
Longtemps, il fut Nono, le fils de Jean-Luc, et puis Lagardère père est mort en 2003 et Arnaud, le fils, a repris les rênes de l'Empire Lagardère, un empire qu'il a dépecé, vendu en partie à Vivendi. Aujourd'hui, Arnaud Lagardère est l'image de l'héritier qui chute, conséquence de sa mise en examen hier. Il a démissionné de tous ses mandats de dirigeant du groupe ce matin, groupe qui porte son nom, Céline Bey-Darcourt.
Arnaud Lagardère est en effet ressorti du bureau des juges d'instruction avec une interdiction provisoire de gérer son entreprise, une mesure contre laquelle il va faire appel. Le conseil d'administration se réunira prochainement pour installer une gouvernance temporaire. La justice soupçonne l'homme d'affaires d'avoir pioché dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie. Il faut dire qu'Arnaud Lagardère est lourdement endetté, ce qui l'a contraint à faire absorber son groupe par Vivendi il y a quelques mois. Pour cela, il a dû renoncer au système juridique mis en place par son père, le statut de commandite par action qui permettait au PDG de diriger la maison avec moins de 10% du capital. Lagardère est désormais une simple filiale de l'Empire Bolloré. Ses actifs ont fondu comme neige au soleil. À la mort brutale du patriarche Jean-Luc en 2003, l'entreprise était présente dans 14 secteurs. Il n'en reste que 4 aujourd'hui. L'édition avec Hachette, les salles de spectacle, Folies Bergères ou Casino de Paris, le travel retail, c'est-à-dire les boutiques dans les gares et les aéroports, et seulement 5 marques de presse, Europe 1, Europe 2, RFM, le journal du dimanche et Paris Match. Et encore, Match est en passe d'être vendu à LVMH de Bernard Arnault.
Céline Bey-Darcourt, il n'y a pas eu harcèlement scolaire. Les conclusions de l'enquête administrative de l'éducation nationale aujourd'hui. Après l'agression de Samara, adolescente de 13 ans début avril à Montpellier, elle n'a pas relevé non plus de manquement fautif de la part du personnel de l'établissement scolaire. 5 adolescents ont été mis en examen dans ce dossier. Un incendie à Paris la nuit dernière, au 6e et 7e étage d'un immeuble du 2e arrondissement de la capitale. Au moins 3 personnes sont mortes. Les pompiers sont toujours sur place. Selon les premiers éléments, une fuite de gaz sous les combles serait à l'origine du sinistre. Une personne a été conduite à l'hôpital. 2 pompiers ont également été blessés. Bruxelles ouvre une enquête contre les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les réseaux sont soupçonnés de ne pas respecter leurs obligations en matière de lutte contre la désinformation avant les élections européennes qui auront lieu en juin. Le gouvernement britannique annonce aujourd'hui l'expulsion de 5700 demandeurs d'asile vers le Rwanda, et ce d'ici la fin de l'année. Cela fait suite à l'adoption la semaine dernière d'une loi controversée censée décourager les traversées illégales de la Manche. Les premières expulsions débuteront d'ici juillet. Ces 5700 demandeurs d'asile seront sélectionnés parmi les plus de 57 000 personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni entre 2022 et juin 2023. Le président du Kenya a convoqué aujourd'hui une réunion exceptionnelle. Il s'agit de prendre des mesures supplémentaires après les pluies et les inondations meurtrières qui frappent le pays depuis plusieurs semaines. 169 personnes sont mortes et près d'une centaine sont portées disparues dans le pays. L'opposition au Kenya dénonce une réaction insuffisante des autorités face à un événement météorologique annoncé. En France, il continue de pleuvoir aujourd'hui, mais pas dans les mêmes proportions. Il n'empêche, une profession s'inquiète. En Indre-et-Loire, les maraîchers, il a gelé ces derniers jours, il va encore pleuvoir début mai. Il faudra aussi compter avec les saints de glace. Les produits d'été vont donc avoir du retard et ne seront pas forcément en grande quantité. Melon, concombre, pastèque, soyez patients si l'on en juge le reportage d'Adrien Bossard de France Bleu Touraine à Saint-Martin-le-Beau à quelques kilomètres de Tours.
Dans l'exploitation de Denisbourg, tout ou presque est en retard.
Donc là, on arrive dans une serre de chou-fleur qui aurait dû être coupée il y a déjà une bonne quinzaine de jours.
La faute aux averses et aux températures fraîches ayant empêché les légumes de pousser comme il faut.
Ce qui va poser problème après pour la suite des plantations, ça va créer un décalage forcément avec melon, pastèque et puis après patates douces.
Justement, les melons, le maraîcher ne s'y attelle que maintenant. Alors qu'il aurait dû commencer le paillage des parcelles il y a 2 semaines, des plantations tardives et donc des récoltes tardives aussi, début juillet, pas avant.
Les 2 premières récoltes vont donner en même temps, donc ça va être un gros coup de production bien speed.
Et encore, il faut que ça prenne. La pluie annoncée ces prochains jours n'offre aucune perspective de soleil, pourtant il en faut.
Il ne va pas y avoir un gros risque, ça va juste ralentir le développement. Après, par contre, à force d'avoir trop de taux d'humidité, ça peut développer des champignons dans les serres.
Comme c'est arrivé pour ces brocolis, 40% de production en moins par rapport à d'habitude.
Trop de pluie cette année au moment de fin d'hiver, en fait, ça m'a fait perdre à peu près une récolte de brocolis d'une 1000 pieds. En fait, trop d'humidité, ça les a fait pourrir sur le pied.
Avec cette météo, radis, fraises et pommes de terre nouvelles se font également plus rares, ce qui fait que sur les marchés, les clients se les arrachent.
Ils viennent de bonne heure pour être sûrs d'avoir quelque chose.
Mais promis, ce n'est pas plus cher.
Adrien Bossard, il paraît que les Français aiment les jeux de hasard, la preuve par le chiffre d'affaires de la Française des Jeux qui est en hausse, grattage, loto, Euromillions. L'an dernier, 27 millions de Français ont joué à un jeu de hasard. On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie du 13-14. Jérôme Cadet recevra Isabelle Falque-Pierrotin, c'est la présidente de l'Autorité nationale des Jeux. Vos questions et ou témoignages, ils sont co-signés au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Vous cliquez sur l'onglet Réagir. 12h05.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Aujourd'hui, la plupart de notre vie administrative se passe en ligne. Nos impôts, nos relations avec la CAF, tout ça se fait sur Internet.
Le code.
Qui a décidé cela? Avec quelle idée du rôle de l'État et quelles conséquences pour les citoyens? Si c'était un mot qu'il résumait, celui de l'État plateforme.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
La bande originale, oui, sur France Inter, la deuxième partie. Ouh, c'est maintenant.
On était à l'heure.
C'est vrai, j'ai noté. Mais c'est bien une réprimande. Et là, non, ça agit.
Comme ça n'arrivera plus. Comme c'était la dernière fois avant la fin de la saison, je tenais à le préciser aujourd'hui.
D'accord, voilà.
Laetitia Gaillet vous informera toute l'après-midi, mais entre-temps, la rédaction sera là à 13h. À tout à l'heure,
Laetitia Gaillet.
Avec Mélodie Fontaine, avec Lisa Benmoitié, avec Camille Lavard. J'adore son regard, Lisa. Avec Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Alex Lutz. Nous évoquons le film Le Tableau Volé où vous jouez de la guitare.
Ah bon, ah bon, comment ça?
Si, il n'y a pas un moment.
Non, c'est, non, pas.
C'est pas lui.
Ah non, c'est,
non,
lui,
c'est Arkady.
C'est le fils. Oui, pardon, ouais. C'est le fils qui appréhende la corrida.
Oui, je joue
non,
un
c'est vrai.
De
non, c'est ça.
Et de la harpe.
C'est la corrida. C'est la scène où la maman veut absolument qu'il joue de la corrida et où lui est gêné en disant non, non, pas là. Vous êtes aux côtés de Léa Drucker, Nora Mzaoui et Louise Chevillotte. Alexus, comment décririez-vous le parcours de Louise Chevillotte, cette jeune fille qui vient juste pour un stage, qui est totalement dominée par votre personnage et qui va prendre de plus en plus de responsabilité ou d'autonomie.
Bah surtout qu'elle va réussir à suffisamment retourner la situation pour ce qui a été peut-être des défauts mal gérés pour elle servent ce qu'il faut pour ce tableau et puis remettre ce patron à sa juste place. Non, bah, c'est
dans
un personnage...
Dans un milieu de mal dominant quand même.
Hein, oui, et puis un personnage qui a mal vécu quelque chose avec son père, avec le chemin professionnel et difficile de son père, et qui a choisi... Alors c'est comme une protection, le mensonge comme protection pour se protéger. Mais
et qui va lui servir de leçon, et c'est comme ça qu'elle va aussi décortiquer une situation.
Qui va quand même
situation,
lui servir de leçon, et en même temps, je trouve que ce qu'elle a fait de très fort, Louise, c'est qu'on est tout de suite en empathie avec ce personnage. Elle en a pas fait quelqu'un où on se dit elle est folle alliée. On voit qu'il y a un problème.
Il y a un petit côté mytho qui est gênant quand même au début.
Oui. Ce que j'ai adoré dans ce que fait ce que j'adore dans ce qu'écrit Pascal, c'est qu'il ne justifie pas comment sont les personnages. Il les amène, il se trouve que voilà, il la voulait comme ça, elle arrive, on voit qu'elle est menteuse, et c'est ça qui nous dérange. Mais comme dans la vie, ça nous dérange, et puis après, on décortique, quoi. On n'a pas tous les trucs avant. Mmh.
Et le rapport qu'elle a avec son père, joué par Alain Chamfort, et là aussi...
On découvre aussi, dans sa relation à Alain Chamfort, que c'est bouleversant, et que ça explique aussi plein de choses de cette jeune fille qui tâche de se protéger.
Ils ont tous un point commun, quand même, hein, que ce soit votre personnage, celui de Nora Mzaoui, de Louise... ou de Léa Drucker, au niveau de la vie privée, on ne peut pas dire qu'ils soient...
Que c'est la Winas.
Non.
Ils se cherchent un peu, quoi.
Pas génial, quoi.
Voilà,
parce que quoi, ils sacrifient tout pour leur boulot.
Bah, ça dit aussi un truc...
Ça bosse H24.
Oui, mais c'est aussi un truc de... Ça dit modestement, sans en faire un pamphlet, mais ça dit des choses de l'époque aussi.
Ouais, l'air du temps.
L'urgence tout le temps, la performance tout le temps, la peur, tout peut faire peur. Donc voilà, c'est des personnages qui, bah, du coup, ils sont en peine.
C'est intéressant parce que c'est autant une description justement très, très humaine qu'il y a dans ce film signé Pascal Bonitzer, et les dialogues sont bien ficelés, le rythme, est là. Et puis c'est un vrai, il y a une sorte de thriller, même si on imagine quelle pourrait être la fin, puisqu'encore une fois c'est un fait réel, donc on se dit il ne va pas tordre le cou non plus à la réalité, il s'est appuyé dessus pour en faire une fiction, mais il y a quand même cette espèce de suspense avec comment vont-ils les uns comme les autres
c'est s'en plutôt sortir. Comment ils vont s'en sortir bon, individuellement et tout ça, et comment autour de cette œuvre ils vont parvenir à ce que effectivement, comme vous le dites, on devine l'issue, quoi. Mais c'est comment dans cet univers, dans ce marché de l'art, dans les maisons de vente, dans les comment ils vont décroter tout ça.
Ouais, quoi, voilà. Dans une comédie romantique, on sait que les deux vont finir ensemble. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on regarde pas quand même pour voir comment
exactement.
Ils vont y arriver.
Exactement.
On est d'accord. Récemment, il a déclaré.
Pardon. Je suis parti tout seul.
Mais depuis, j'aime bien le pardon. Je suis parti tout seul. C'était toi. T'as pas reconnu ta voix.
Ah d'accord.
Je suis parti tout seul.
Ouais, okay.
C'est des archives comme ça.
Mais oui.
C'est des trucs qui viennent de se passer.
Ma souris de portable.
Ok, pourquoi pas.
Voici Tanguy Fassion.
Ce week-end, quand j'ai joué en Bretagne, je voyais bien que les gens avaient l'air bizarres. Je veux dire, plus que d'habitude. Ah. Mais je mettais ça sur le compte de ma propre bizarrerie. Je sais jamais si c'est moi qui suis décalé ou si le monde est aberrant. Et hier, alors que je faisais mon footing au Bois de Boulogne, je croise Daniel Morin. Je lui dis, que fais-tu là, Père Foura? Et où as-tu mis tes habits? Le rouge lui monte aux joues et le contraste avec son corps blanchâtre fait qu'il se met à ressembler à un malabar bigou. Je m'approche de lui avec la ferme intention de le mâcher. Lorsqu'il se met à hurler, non, mais ma tête est partie en sucette, maître. C'est pour ça que je déambule nu dans le bois. Il montre une pièce de 2 euros et ajoute quand j'ai quand même gagné ça cet après-midi en vendant mon corps. Je pense c'est pas cher payé. Il me dit non, mais c'est tout ce qu'il y avait sur elle, c'est 15 charmantes personnes. Et là, je me dis, c'est étrange que Daniel soit devenu à moitié fou, parce que la sagesse de ce vieil homme devrait le préserver de la MST et des fougères. Je lui demande ce qu'il a mangé au déjeuner et il me dit des crêpes, parce que vous êtes mon modèle et qu'ainsi je vénère tout ce qui a trait à la Bretagne. J'ai une croix celtique tatouée sur la fesse. Il se retourne, c'est vrai. Après avoir indiqué à Daniel que la croix celtique est aussi utilisée comme signe de ralliement par les mouvements d'extrême droite les plus radicaux, ce à quoi il répond oui, et je me connecte sur le net, je tape crêpe, tombe sur un site de fétichistes brestois qui se roulent dans des crêpes géantes avec des porcs entiers censés incarner le rôle du larbre. Puis sur un site d'info, je vois qu'il y a un rappel de farine bretonne bio contaminée au datura, plante décrite par Drogue Info Service comme hallucinogène très puissant et toxique. Je regarde Daniel, il est en train de faire le poirier tout nu, ce qui fait que son sexe le recoupe jusqu'au bas du visage parce qu'il a un sexe extrêmement long. En fait, j'en sais rien, voilà, mais je me moque trop de lui, donc pour compenser, parfois je glisse une contre-vérité afin de restaurer sa légende, quoi. Hein, s'il peut conclure grâce à ça avec 2-3 vendeurs de double décimètre, bon, moi, je serais content. Alors, le datura, c'est costaud. Le petit nom de cette plante, c'est l'herbe du diable. Voilà, donc on sait qu'on n'est pas sur un plant de ciboulette pour relever la salade de ta mère. Les symptômes, sécheresse de la bouche, comme vous, Nagui, quand vous avez fini de poser une question à votre invité, un seul laps de temps que les fabricants de montres appellent le tour du cadran. Mais aussi, pupille dilatée, trouble de la vue, rien que sur le Finistère, à Flelou a fait un chiffre de plus 400%, tachycardie, bon, agitation, confusion, nous ça on connaît parce qu'on reçoit pas mal de comédiens et d'actrices ici. Et enfin, le datura provoque des hallucinations. C'est que devant le JT, on se met à voir l'ayatollah Khamenei portant sur le dos le drapeau américain, on tape sur son fils en hurlant, purée, ils sont gros, cette année les moustiques tigres. Bref, quand on ingère du datura, il n'y a rien qui va. Et tiens, ça pourrait faire un bon slogan de pub si on se met en vente dans les bureaux de tabac. Je vais faire fortune. Bon, tout ça pour vous dire que dans les 4 départements bretons a été vendu de la farine contenant du datura, ce qui potentiellement peut changer l'ambiance dans les crêperies. Si quand vous y allez, il y a des petits couples assis à table qui se regardent trop intensément en parcourant de la langue le rebord de leur bolet de cidre, bon classique. Ouais. C'est normal. Si ces mêmes couples se crachent le cidre au visage en hurlant qu'ils sont des putains de lamas, c'est que dans la pâte, il y avait de la farine contaminée. Alors pour les bretons qui nous écoutent, la farine psychédélique est de la marque JP Cloto. Numéro de lot 2A, date limite de consommation, mars 2025. Les autres farines sont normales. Si malgré tout, vous avez un comportement erratique, que vous racontez n'importe quoi, attention, il se peut que vous soyez juste complètement con. Non mais faites attention, parce que parfois on confond les deux. Vrai, en soirée, quelqu'un vous dit un truc, vous répondez « Arrête, Sylvain, t'es bourré », et là, il vous dit « Pas du tout, j'ai bu un iced tea ». Parce que l'être humain, globalement, n'a pas un niveau plus-plus. Hein, je veux dire, tu remplis pas un stade sur de la pop urbaine vocodée avec des cadors, quoi. Mais le problème avec cette farine, c'est que qu'elle est bio. Donc, je veux dire, s'il y a tromperie, là, vous allez dans le petit magasin éthique, acheter du thé indien, du gingembre équitable, des petits Montessori, c'est comme les petits écoliers, mais quand tu vis dans le 11e. Je veux dire, vous faites tout bien pour avoir la vie la plus nickel possible. Tourcoing, Marseille, vous le faites à vélo. Un jour, vous faites des crêpes et paf, farine datura, toute la petite famille défoncée, urinée dans le rayon des t-shirts petit bateau en criant à la dame que du convoi bleu, détends-toi, la schtroumpfette. Mais le datura, cette plante à la con, peut ravager tout l'ouest de la France en 14 jours, Nagui. On va voir Nolwenn Leroy errer dans les rues de Rennes en faisant du tam-tam sur des canettes de 8-6. Et en fait, au-delà du datura, mais les plantes, c'est de la saloperie. Wow. À part le maïs, parce que sans, on n'aura plus de popcorn. C'est-à-dire qu'en cas de débat Mathilde Panot, Jordan Bardella sur BFM, on ne saura pas à quoi bouffer. Bon, je vois deux solutions au problème. Soit on arrache l'ensemble des plantes de la nature. Non. Et on fait de la France un immense parking de magasins Jiffy, bon, ce qu'elle est déjà. Soit on fait ingérer à Fidel Turner tout le datura du monde, ce qui changera rien à son comportement habituel. En attendant, méfiez-vous des crêpes, ma suggestion, même à Douarnenez, partez sur les tacos. À la sardine, si vous voulez, flambez aux chouchènes, mais tacos. Hier, j'ai dit ça à Daniel, qui broutait dans le bois de Boulogne, parce qu'il pensait de la sauge. Bon, en réalité, un préservatif usagé, comme on a des milliers dans ce lieu de perdition. Nagui.
Délicieux.
Et comme vous le dites souvent, Nagui, les plantes, il vaut mieux les sécher et les rouler que les avoir dans la farine. Dans l'eau 2A, faites attention à vous, les Bretons. Dans cette région, je fais complet à chaque fois. Vraiment, j'ai pas envie de vous perdre, quoi.
Merci, Tanguy.
Tanguy Pastureau, qui est aussi sur scène, pas juste au Bois de Boulogne. Il sera à Nancy le 25 février prochain, salle Poirel.
Je suis sûr qu'il y en a qui ont noté la référence de la farine pour évidemment pour essayer. La goûter.
Il faut, c'est très toxique en réalité.
Ouais, ouais, mais il y a des fous.
Mais comment elle s'est retrouvée là-dedans, cette
En fait, ça pousse au milieu des ah bah voilà. Du blé noir. Voilà, ça se mélange et quand on récolte le blé noir, bah, pour faire les
gâteaux. Et on se régale.
Mais donc, bah, naturellement qu'elle est devenue dangereuse.
Naturelle, oui, oui.
Ouais, non, c'est pas un pesticide quelconque ou un produit chimique qui est venu.
Il y a aussi des feuilles de coca.
Il y a plein de trucs hallucinogènes.
C'est naturel.
Ouais. Il y a beaucoup de choses hallucinogènes.
C'est ce qu'ils ont dit au juge.
C'est bien de parler de cette expérience que
vous avez. Non, mais pas moi.
Non, d'accord.
Arrêtez de me faire une réputation d'alcoolique.
C'est pas une réputation, ouais. C'est un documentaire.
Mais mangez-moi sur les champignons.
Non, mais toi, t'avais déjà eu ce problème.
Moi, c'est de particulier.
Oui, t'avais fait une tentative.
Oui, t'avais goûté. Une expérience. Non, mais dis-le.
Non, j'avais acheté un truc que je pensais être du CBD qui était en fait du HHC qui depuis est interdit, mais c'est du cannabis de synthèse en fait, c'est des gummies et effectivement j'en ai avalé 4 en me disant ça fait rien
mal,
du tout.
Ça super mal vécu.
Ah bah j'ai fini aux urgences, oui, bien
ouais,
sûr.
C'est ça, non, mais faut
le dire. Rien du tout. Et t'es sorti la semaine dernière.
Ça me fait rien, genre.
Ouais. Et là je crois qu'il va essayer un salon de massage.
Non, là
il a pas de
projet.
On en reparlera plus tard dans la semaine, jeudi, ok, si tu veux. Alex Lutz au cinéma dans ce film réussi qui s'appelle Le tableau volé, signé Pascal Bonitzer. D'autres événements culturels, oui. Leïla. Sort demain, pardon.
Absolument, oui. On va en Floride, aux États-Unis, dans un musée consacré à un seul artiste. Et à l'occasion du 120e anniversaire de cet homme, vous allez pouvoir faire quelque chose de particulier avec lui.
120e ? Donc c'est pas Warhol, c'est pas...
Non.
Il est mort en 89.
C'est un auteur,
artiste. J'ai pas bien écouté.
Ouais, alors je répète, on est en Floride aux États-Unis. Il y a un musée qui est consacré à un seul artiste.
D'accord.
À l'occasion du 120e anniversaire de cet artiste-là, vous allez pouvoir faire quelque chose de particulier avec lui. Alors le nom de l'artiste, au fond, je peux vous le donner. Il est mort en 89. On le connaît tous. Il est espagnol.
Miro.
C'est l'autre.
Dali.
Absolument. C'est Dali. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Dali en Floride? La Floride n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce musée-là.
Dali non plus.
Non, parce qu'elle s'accroche à Floride.
Ouais. Ok, on va pouvoir
rentrer dans ses toiles.
Pas dans ses toiles.
S'intégrer, c'est être soi-même.
C'est sculpture, rentrer dans les sculptures.
Non,
être un modèle.
Ouais. Pas être un modèle.
Porter sa moustache.
Non, quelque chose d'encore plus fou. Qu'est-ce qu'on pourrait rêver de faire avec Dali éventuellement?
L'amour.
Danser.
Un peu moins fou.
Dialoguer, discuter avec lui.
Absolument. Vous allez
je suis hyperboliquement fou.
Voilà, c'est ça. Grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir échanger.
Elle est déjà artificielle.
Elle est artificielle. Avec Dali, à partir... Mais j'essaie de finir ma phrase. À partir de documents d'archives, tu vas tout seul. Avec des documents d'archives et des audios, en fait, ils ont fait travailler la voix de Dali. Et alors, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous voyez le téléphone aphrodisiaque, c'est ce téléphone avec dessus une sorte de homard en termes de combiné qui a donné lieu à la robe homard ensuite créée par Dali. Et bien dans
il,
cette...
il fait plein de trucs comme ça, mais un peu plus pervers aussi. Ouais. La commode où qui était je crois qu'il y avait des tiroirs à la place des seins et à la place du sexe
oui,
aussi.
Du sexe féminin. Peut-être et puis là, combien,
les pendules molles.
Mais là, c'est dans une réplique en fait de ce téléphone aphrodisiaque qui est une superbe œuvre. Allez voir, elle a été créée en 36. Et dans cette œuvre là, vous allez pouvoir dialoguer avec Dali. Je sais que vous vous foutez de ma gueule. Mais peu importe. Super cette œuvre.
Superbe œuvre.
Ah beuvre.
Oui, beuvre. Beuvrie. C'est un mélange entre œuvre et beuvre.
Superbe œuvre.
Et après, c'est nous qui faisons ta réputation.
Tout ça pour vous demander. Merci beaucoup, Lisa, pour vous demander. Alex, vous, avec quelle voix vous aimeriez dialoguer ? Une voix qui n'est plus.
Ah non, ça me je me fantasme pas du tout, ça. Non, non.
Rencontrer un artiste, rencontrer un Charlie Chaplin, par exemple.
Bah oui, enfin, rencontrer non, c'est vrai, mais le truc de l'intelligence artificielle, je trouve ça super, ceci dit. Enfin,
mais si vous aviez la magie de discuter directement avec quelqu'un qui n'est plus.
La magie ?
Ouais.
Discuter. Oui, Charlie Chaplin, ça serait pas mal.
Ça vous irait bien, en tout cas.
Ou des... Non, des on parle de peinture, mm-hmm. Et des peintres, Hopper, Vermeer, tout ça, j'aimerais bien.
Qu'est-ce que vous leur demanderiez ?
Des tuyaux.
Des tuyaux pour peindre.
Non, mais je trouve ça...
Vous dessinez extrêmement bien.
Je peins et je dessine. Voilà. Alors oui, ceux-là, je leur poserai des questions. Mais je comprendrais rien, ce serait du vieux français, du...
Non mais la magie fait que vous allez vous comprendre. Encore
moins. Est-ce qu'il y a des toiles qui ne vous touchent absolument pas ? Parce qu'on parle beaucoup de l'émotion, on parle beaucoup de ce que l'on peut...
Non mais alors je me rends quand même compte que souvent quand il y a des maîtres même où on se dit « Oh là là, bon ». Quand on est devant l'œuvre, non mais ça arrive ça.
J'aime bien cette phrase.
Et on est devant l'œuvre et on comprend mieux pourquoi c'est quand même. Moi par exemple Dali, j'en suis pas dingue et c'est vrai que il y a des tableaux, il y a un tableau où il y a le visage démesuré de sa femme comme ça qui est posé comme dans une espèce de décor presque de cauchemar comme ça, son visage immense fait presque de manière hyper réaliste. Et elle est hypnotique, l'œuvre. Quand on est devant, elle est hypnotique, on ne peut pas décrocher. Même si on n'aime pas. Alors moi, c'est ça que j'aime bien.
C'est les pendules. Alors, mais ça ne s'appelle pas d'ailleurs les pendules.
Les montres. Attends, merde, les pendules. Les montres qui coulent.
Montres.
L'écoulement.
Non, l'écoulement du temps, je crois, ou un truc comme ça. Ouais.
Les montres flasques.
Ça, t'aimes pas. Moi, j'adore.
Non, je te demande, tu aimes bien.
J'adore. Moi, ça m'a.
Ouais,
ça
m'a. En tout cas, voilà, j'adore être troublé ou dérangé par une œuvre.
Et vous allez souvent dans les musées.
Ben j'essaye. J'étais au Louvre. Il y a un truc où on peut être donateur, bon donateur, sympa
donateur.
Les amis du Louvre. Ouais. J'étais là-bas et j'y suis. Et donc c'est chouette. Mais j'aimerais y aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais à chaque fois le monde bloque quoi quand même un petit peu. Ouais.
Une autre question.
On cherche un acteur qui pourrait incarner prochainement un mythe sous la direction d'un réalisateur avec qui il a déjà travaillé 7 fois.
DiCaprio ?
Absolument, DiCaprio pour incarner avec Scorsese, bien entendu. Et il pourrait incarner qui d'après
Dali.
Vous ?
Non,
pas Dali.
Non, c'est
pas Dali. Un grand chanteur.
Oui,
Elvis.
Oui.
Non.
Ah non,
un grand chanteur. Si je vous dis Ava Gardner. Absolument. C'est en projet. Il faut simplement avoir l'aval quand même de la fille de Sinatra. Non, la petite fille de Sinatra, Tina
Dolores.
Sinatra. Qui est Dolores, c'est sa sœur, sa cousine, qui doit quand même valider cette possibilité de laisser faire une sorte de biopic sur Frank Sinatra par Martin Scorsese. Ouais,
avec sa part d'ombre quand même, parce que Sinatra, mafia.
Oui. Oui, alors comment Scorsese va le traiter ?
Vous n'avez pas vu The Offer ?
Non.
Ah, c'est génial. Ouais, c'est une série qui parle du making of du Parrain, en fait, et où Sinatra était déjà visé dans le Parrain.
C'est Johnny Fontaine dans le Parrain.
Exactement. Et où Sinatra avait demandé à la mafia d'intervenir pour empêcher la production du Parrain. Cette série, The Offer, c'est sur Canal. Non, mais c'est absolument génial. Quoi.
En regardant votre filmographie, Alex Lutz, j'ai eu la sensation.
Le cinéma, vraiment.
Je me suis dit, tiens, ouais,
je me suis demandé. En regardant votre filmographie, Alex Lutz, je peux me tromper, mais j'ai eu l'impression que vous n'avez jamais tourné deux ou trois fois avec un même réalisateur.
Si, Quentin Reynaud.
Combien de fois ?
Deux fois.
Voilà. Ouais, c'est votre max.
Oui, mais j'ai pas fait. Enfin, on dirait. J'ai pas fait beaucoup de films. Hein,
quand même.
Non, pas tellement.
Non ?
Non.
Enfin, là, je comprends la question de Leïla. Est-ce que ça veut dire que vous voulez de la diversité et vous voulez
Moi, j'adore avoir à chaque fois un nouvel objet à défendre. Mais
vous faites du cinéma depuis
non,
quelques années.
Non, c'est vrai, Gaspard Noé, je rêverais de faire 36 000 films avec lui, tellement j'ai trouvé cette expérience.
Vortex
folle. Ouais. Ça dépend. Et Quentin Reynaud, je le suivrai au bout du monde aussi. Vraiment,
parce que vous, quand vous réalisez, vous aimez bien avoir des fidèles aussi autour de vous.
Oui. Oui, non, mais c'est agréable, le côté familial et un peu troupe, des troupes qu'on retrouve aussi. Donc, ouais.
Et devenir une sorte de muse pour un réalisateur, en tout cas d'artiste fétiche, parce que c'est comme ça que ça s'inscrit avec Leonardo DiCaprio et Scorsese.
C'est Leonardo DiCaprio, c'est, comment voulez-vous ? C'est comme si on me demandait... Enfin,
mais non, mais
c'est
vous
comme
pouvez
si on
avoir envie de...
d'un truc de caviar avec une échoppe locale.
Il y a plein d'actrices, par exemple, qui sont des fétiches. Regardez.
DiCaprio, Scorsese, je ne peux pas du tout dire. Ouais, je me dis oui.
Alors prenons en France, prenons Christophe Honoré, par exemple. La collaboration qu'il mène
j'adorerais,
avec...
Si ça s'inscrit dans. Il y a des. Je vous dis, Gaspard, ça m'a tellement plu, intrigué. J'ai trouvé ce personnage. On parlait de dérangement. On aime, on n'aime pas, mais ça se traduit pas par aimer ou pas aimer. C'est des objets filmiques non identifiés qui laissent pas indifférent et tout ça. Ça, c'est si on peut s'inscrire dans cette familiarité-là, c'est génial.
L'avenir en tant que réalisateur, ça sera l'adaptation de Connemara.
De Nicolas Mathieu, oui, tout à fait. Ça sera à la rentrée. C'est pas du bois, ce truc.
Si,
c'est un peu de bois. En tout cas, c'est motif bois. Ouais. Et je touche ma tête.
Vous
ça
en
sera
êtes
là.
Tout dans le process.
On a fini d'écrire. C'est dans les tuyaux pour le monter et tout ça. Et on a notre casting, mais je vous le dirai pas tout de suite.
D'accord, mais qui joue ?
Non, pas tout de suite. Non,
mais pour jouer le joueur de hockey, là, Christophe,
je l'ai et j'ai Hélène. Mais je ne vous le dirai pas tout de suite, parce que...
Ils ont à peu près quel âge ?
Ils ont l'âge des rôles.
Oui, mais parfois...
Une petite quarantaine. Vous allez faire des devinettes comme vous avec la petite musique, c'est ça ?
Évidemment.
Mauvaise
réponse.
Non, je ne le dis pas tout de suite. Mais
on m'a dit que vous étiez gentil.
Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. C'est que... Non, on va bientôt le dire.
Ok. Ouais, mais à quelqu'un d'autre, pas nous.
Je vous enverrai un texto à vous, si vous voulez, vous le direz.
Ça sortira quand ?
Attends, promesse ou pas ?
Tu veux que je le dise à toi d'abord avant l'annonce ?
Qu'on soit les premiers.
Oui, je pense que c'est jouable, ça.
Okay.
Mais tu vois, une heure avant, quoi.
Oui, comme ça.
Juste pour le plaisir.
On accueille telle actrice, au fait, rien à voir. J'ai le casting.
juste pour nous. De dire, Alexus, vous avez promis, voilà le casting.
Il nous fait confiance.
Oui, si vous voulez, oui, d'accord.
Tu viens pas pleurer.
Là, t'as vu, la voix aiguë.
Il a menti.
Oh, le menteur.
C'est un mensonge.
Oui, j'ai envie d'un rapport de confiance. Mais oui,
écoute, ouais, d'accord.
Oh là là.
Vous jouerez au Cirque d'hiver, ça sera du 18 au 27 avril en 2025, votre nouveau spectacle.
Vous pouvez jouer ici avant.
Je viendrai juste là.
Dont le titre est...
J'ai pas de titre.
D'accord.
Mais peut-être ça s'appellera...
Est-ce qu'il y a un cheval ?
Il y aura de nouveau les chevaux, et ça s'appellera peut-être la balade de Vincent Météore. Mais c'est pas sûr.
Très bien. Dans Ça c'est Paris de Marc Fitoussi, on vous retrouvera également pour le...
C'est une super série sur l'univers du cabaret, ouais.
Ça passera sur France 2.
Oui, c'est la même équipe qui a fait 10%. Et c'est un super, une belle série sur un cabaret que mon personnage voulait vendre, et puis finalement il s'y réattache, et puis tous ensemble ils essayent de le remettre d'aplomb. C'est
très
très chouette.
Et vous incarnez Pierre Berger dans la série Becoming Karl Lagerfeld, diffusée sur Disney+, ça commence là début juin. Exactement. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour Laetitia Gaillet, qui n'étant pas habituée à ce que Nagui lui rende l'antenne avant 12h07 pour le flash de midi, n'était pas prête quand Nagui a rendu à l'heure. Vous voudrez donc excuser notre journaliste star d'avoir commencé son flash avec du sandwich oreillette au niveau des molaires. Désolé pour tous les puristes de la langue française qui ont sursauté quand ils ont entendu notre invité évoquer la winas. Alors, j'ai vérifié, les amis, vous avez raison, ça n'existe pas, le mot winas, mais n'oubliez pas qu'Alexus, c'est un bad boy, un gangster, un ouf, qui rappe plus vite qu'Eminem, qui zouk mieux que Francky Vincent. Il a le droit d'inventer des mots, comme Leila avec sa dernière trouvaille. la beuvre. Désolé pour tous les parents qui ce matin ont entendu notre invité dire « Oh, on est méchant avec les jeunes, hein, ils sont super les gosses, hein, faut leur foutre la paix. » Parents qui n'en peuvent plus de leur ado, qui après cette émission ont pris la confiance et qui du coup balancent toute la journée « C'est bon, lâchez-moi, Alex Lutz, il a dit foutez-nous la paix, Alex Lutz, il a tout raté ado, il est au top aujourd'hui. Papa, tu lâches Gradzilla, maman, tu me rends mon joint. » Désolé enfin pour tous les fans romantiques d'Alex Lutz qui pensaient à tort que leur idole était fan de musique un peu cucu. Ben non, il a dit ça, un bad boy. Ce week-end d'ailleurs, si vous êtes du côté de New York, il participe à un battle dans une prison du Bronx.
On passe par toutes les émotions dans le tableau volé. Il y a de la tension, du suspense, il y a une part de comédie romantique et du rire. On passe par toutes les émotions comme lorsqu'on est devant une toile ou devant plusieurs toiles. Le tableau volé, à partir d'une histoire vraie, une fiction signée Pascal Bonitzer avec entre autres Alex Lutz, Léa Drucker, Louise Chevillotte et ce gamin dont on reparlera qui joue le rôle de celui qui a la toile en ne sachant pas la valeur qu'elle porte. Il s'appelle Arkady Radev. Merci beaucoup d'être venu, Alex.
Merci à vous.
Et encore bravo.
C'est toujours super. Demain. Et je vous dirai ça alors en premier, d'accord.
Alors. Super.
Demain, nous repasserons une heure et demie en compagnie de Raphaël pour son nouvel album. Et tout de suite, c'est Dorothée Barba. Bonjour,
ah,
Dorothée.
J'ai cru Dorothée.
Salut Dorothée. Oui, c'est aussi Dorothée. Bonjour.
Bonjour. Tout le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Dans les carnets de campagne, on est en Alsace cette semaine. Et je vous parle d'un endroit signalé par plein de messages d'auditeurs et d'auditrices. C'est donc incontournable. Ça s'appelle L'Or du commun et c'est près de Colmar. Voilà le programme. Salut. À demain.
Émission. Ciao. Ciao.
Vous êtes déjà debout entre 5h et 7h ?
Je suis réveillé depuis
4h30. Pour profiter de la nature.
Je dois arriver tôt tous les matins sur le marché.
Eh ben nous aussi.
France Inter, le 5-7, Mathilde Munoz.
Au saut du lit, la première revue de presse de Claude Askolovitch.
On s'en veut de s'exposer à ce vertige.
Les disques de Charline Roux, la météo de Marie-Pierre Planchon et bien sûr toute la bande du Carrefour à partir de 6h40.
Voilà, faut arrêter de tout critiquer, merde.
L'avenir appartient à ceux qui écoutent le 5-7 de France Inter.
À demain.
France Inter,
première radio de France.
Et il est midi 31. Voici les titres du 13-14. Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Dans le 13-14, on va parler des écrans et des enfants. Rapport remis aujourd'hui à Emmanuel Macron de la part de plusieurs experts du secteur qui détaille la dangerosité lorsque les enfants sont surexposés aux écrans. Ils font plusieurs recommandations, notamment de les interdire pour les enfants de moins de 3 ans. Pas de portable avant 11 ans également. On verra ce que va en faire le président de la République et le gouvernement. On verra aussi ce qu'en pensent les parents de très jeunes enfants, les moins de 3 ans, et puis aussi s'il est possible de vérifier l'âge, de contrôler l'âge des enfants. Si on dit c'est une application pas avant 16 ans par exemple, s'il suffit de dire j'ai 16 ans, c'est pas très dissuasif. Il faudrait aller un petit peu plus loin, on verra quelles sont les solutions techniques qui existent. Et puis un peu sur le même volet, vous savez les deepfakes qui sont en train de fleurir sur le web, notamment ces publicités trompeuses, elles utilisent de plus en plus de personnalités, un faux Kylian Mbappé, un faux Michel Drucker. La Commission européenne demande à Meta d'y mettre bon ordre. Nous serons à partir de 13h30 avec la présidente de l'Autorité nationale des jeux. Les Français jouent de plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Ça a aussi des conséquences sur la vie quotidienne pour ceux qui jouent trop. Et puis on parlera des retraites spirituelles. Il y a de plus en plus de Français qui en font un petit peu partout dans le pays pour faire une pause, paraît-il, ça fait du bien.
Merci Jérôme.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, 13h.
Carnet de campagne avec la Belle Énergie, fournisseur d'électricité renouvelable et française. Ensemble, agissons pour un monde plus vert. La Belle Énergie, tant qu'elle est verte. France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne sont dans le Haut-Rhin cette semaine, département alsacien. À Andelsheim, près de Colmar, il existe un lieu dont je suis obligée de parler. Oui, obligée parce que nous avons reçu plein de messages d'adhérentes pour nous dire le bien que cet endroit leur fait. C'est une véritable ruche où chacune est reine de son parcours professionnel, écrit par exemple Frédéric dans son courriel. Un lieu qui rassemble et qui challenge, dans lequel on se sent en sécurité, écrit Carla. Un collectif qui a changé ma vie de freelance, indique Louise, une association porteuse de valeurs fortes et de projets innovants. Hors du commun, c'est le nom de cette association qui a rempli notre boîte mail, donc. Or, s'écrit OR, sans doute parce que cette initiative est très précieuse. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Marina Patroucheva, bonjour.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes la directrice de l'association Hors du Commun. Alors c'est un espace de coworking qui organise aussi des ateliers, des formations, de l'accompagnement, de l'aide à la reconversion. Votre champ d'action est très vaste. Je remarque une chose d'abord, il n'y a que des femmes qui m'ont écrit pour chanter vos louanges. Ce n'est pas un hasard, je crois.
Alors, effectivement, c'est un lieu où on rencontre beaucoup de femmes, mais il me tient vraiment à cœur de dire que tout le monde est le bienvenu, les femmes, les hommes. Tout simplement, quand l'association a été créée, effectivement, c'était des femmes qui se sont rencontrées, qui ont partagé leurs besoins, qui ont recherché des solutions ensemble, et probablement c'est resté ancré. Donc c'est vrai que sur les à peu près 150, 160 adhérents, ça dépend, ça dépend des saisons, il y a quand même une forte présence féminine, c'est vrai. Mais il y a des hommes.
D'ailleurs, vous dites pas coworking, mais cowork queen, c'est ça?
Alors c'est un jeu de mots, et j'avoue qu'on aime bien les mots, on s'en amuse beaucoup. Et quand on cogitait pour chercher le nom pour cette association, bien sûr, Hors du commun est sorti. Mais il y avait également cette notion de coworking, puisque il y a encore 7-8 ans, on parlait très peu de ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux, et on parlait plutôt des coworking. Et dans le mot coworking, eh bien, notre oreille a entendu le mot king. Et on s'est dit, oui, mais nous, on assume, on n'est que des nanas, alors allons-y, appelons-nous des cowork queens, et les hommes sont les bienvenus.
On a compris ça, c'est bon, voilà.
Bah oui.
À quoi ressemblent les lieux, dites-moi, Marina?
Alors, c'est une maison, ce qu'il y a de plus alsacienne, c'est-à-dire une maison à colombage, comme on l'imagine dans les contes, quand on vient pour le marché de Noël à Colmar, hein, qui est juste très proche. C'est une maison verte, un ancien corps de ferme, où nous sommes situés sur deux niveaux, ça fait environ 200 mètres carrés, mais effectivement pas un lieu qui a été exprès créé pour un espace de coworking, mais plus ou moins bricolé, hein, qu'on a aussi investi avec le bon sens.
Qu'est-ce qu'un Before Week, dites-moi?
Alors, le Before Week, eh bien, Dorothée, moi, je vous invite, quand vous passerez en Alsace, à venir un lundi matin nous rencontrer, puisque de 9h à 11h, depuis maintenant plus de 4 ans, on se retrouve avec les indépendants, les salariés, les personnes qui sont en transition, reconversion. Bref, c'est une sorte de café apprenant, où nous avons toujours une personne qui partage son expérience. Et c'est aussi comme des portes ouvertes, globalement, pour rencontrer l'association. C'est peut-être le meilleur moment. On est quand même aujourd'hui une cinquantaine à se retrouver tous les lundis matins, avec toujours un sujet qui tourne autour du travail, de la qualité de vie au travail, de la conciliation, des domaines différents. Donc globalement, chacun peut devenir le conférencier d'un jour. Je me rends compte à quel point aujourd'hui les personnes peuvent se sentir isolées, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le fameux télésalariat ou alors dans la reconversion, on se cherche. Et le fait de démarrer comme ça ensemble, sans étiquette, sans dire voilà, moi mon chiffre d'affaires c'est ça, ou moi j'ai tant de clients, non, en toute simplicité, en tant qu'humain. Ce qui en soi n'empêche pas par la suite une belle rencontre, y compris dans les affaires, mais de manière subtile.
Ce que vous dites finalement, c'est l'importance du réseau dans la vie professionnelle.
Absolument. Et ça, vous voyez, je m'en suis rendu compte quand j'ai terminé mon congé parental. Ça commence un petit peu à remonter. C'était autour de 2015-2016. Je terminais la troisième année de congé parental avec mon troisième enfant. Et autant pendant ces trois années, moi qui étais par le passé cadre dans la formation, j'étais hyper aguerrie dans tout ce qui était écriture, prise de relation. Je me suis rendu compte qu'au bout de trois années, cette prise de relation, le réseau, c'est comme un muscle. Et si finalement on ne le pratique pas, il est quelque part, mais il n'est absolument pas actif. Donc finalement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était de faire preuve de curiosité, d'aller à gauche, à droite, de rencontrer de différentes associations, des réseaux. Mais je vois aussi que tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise dans cet exercice. Donc nous, par exemple, lundi matin, au Before Week, on laisse personne arriver comme ça, seul, et puis se mettre dans un coin avec son téléphone portable. On a une équipe qui accueille. Ce sont nos, comment on dit, les hôtes hors du commun. Ce sont des bénévoles actifs, et d'ailleurs, parmi les délatrices, il y en a quand même, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas, les filles qui vont cafeter, il y en a plusieurs qui sont ces formidables hôtes qui partagent leur temps, leur connaissance de l'association, et qui viennent vers chacun en disant « Mais et toi, qui es-tu? Quel est ton besoin? Qui est-ce que je peux te présenter aujourd'hui ?» Et les gens, sans s'en rendre compte, lâchent leur téléphone, prennent un café, commencent à discuter, et après, voilà, la mayonnaise prend.
Il se passe beaucoup de choses hein, à Hors du commun. Il y a également des formations. Vous êtes un organisme agréé par France Travail. Et puis, j'ai vu aussi des cours de théâtre. Quel rapport?
Alors, effectivement, le regard qui nous intéresse, c'est plutôt tout ce que le travail et la relation professionnelle peut amener. Par exemple, vous citez très justement les cours de théâtre d'improvisation, animés par notre chef Frédéric Hillet, qui permettent à ces indépendants ou travailleurs, tels les salariés ou personnes en reconversion, tout en s'amusant de retrouver vraiment la confiance, d'être plus à l'aise dans la prise de parole. Et ça contribue éminemment à la confiance professionnelle dont on a tant besoin. Et en plus, au niveau de nos formateurs, je dis dans le sens le plus positif, formateurs maison, ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir, vous savez, ces doubles casquettes. Par exemple, j'exerce en tant que salarié, en tant que, par exemple, je ne suis pas ingénieur santé à l'ARS, mais je suis aussi une passionnée de musique, de poésie. Et donc, je vais, dans notre lieu, exercer une activité d'animatrice d'atelier d'écriture. Ou alors, je suis coach, par exemple, je ne sais pas, auprès des managers. Et ici, je vais faire des formations autour de la relation à l'autre. Comme ça, chaque adhérent, quand il le souhaite, peut devenir aussi formateur, animateur. Et là, on crée toutes les conditions pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles.
Dites-moi, Marina, parmi tous ceux et toutes celles qui sont passés par chez vous, par cet endroit hors du commun, est-ce qu'il y a un profil qui vous rend particulièrement fière ?
Là, je pense plutôt à la formation qui est notre parcours phare, hein, qui est vraiment sorti, je dirais, de notre trip, de notre expérience. C'est le parcours Les Potentiels, où pendant 6 semaines, les femmes en reconversion, transition, vont être chez nous en immersion, suivre plein d'ateliers, des cours de sport, des cours de théâtre, encore une fois, et par la suite s'orientent ou vers l'emploi de nouveau, ou vers une formation qualifiante, ou vers l'entrepreneuriat. Et alors là, on a énormément de belles histoires. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui participe à un atelier de simulation d'entretien d'embauche avec un DRH d'une très grosse entreprise locale. Alors on est dans une forme de jeu, de nouveau. On s'entraîne à faire des entretiens d'embauche. Et puis ce DRH l'appelle le soir même en disant « Écoutez, on a bien joué, sauf que c'est exactement votre profil qu'il nous faut. » Et il démarre 3 jours plus tard et est aujourd'hui en poste et accueille nos groupes à nous, donc de nouveau ces femmes en transition dans l'entreprise pour leur faire toucher du doigt les métiers, les relations de travail. Et comme ça, on en a plein, hein, des cas voilà, de rebond, de prise de conscience, de création d'entreprise, ou alors de retour de l'entrepreneuriat vers le salariat. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ces frontières sont de plus en plus poreuse et on peut tout à fait passer quelques années à entreprendre, être son propre patron et puis finalement revenir dans le salariat et dans l'autre sens.
Pas mal d'exemples aussi, j'imagine, de gens à qui on a tendu la main chez vous et qui l'attendent à leur tour à d'autres personnes.
Absolument. Vous voyez, l'intervenant de notre Before Week d'hier est anciennement en tout cas DRH d'une autre très très grosse entreprise colmarienne. Et donc, grosse situation de remise en cause, un énorme épuisement et puis voilà ce qu'on appelle un burn-out. Et cette personne-là était notre référente quand on montait le programme Les Potentiels dont je viens de vous parler. Et aujourd'hui, ce monsieur, hein, en l'occurrence, il a participé à des tas d'activités et d'ateliers ici chez nous et très régulier au Before Week. Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu formateur et avec toute gentillesse et amitié, il nous partage cette forme de reconnaissance qu'il a, puisque il a juste été pris comme dans un cocon de chaleur, de sympathie, sans qu'on pointe quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui l'intéresse, c'est de partager son expérience, de rendre. Voilà, donc hier, on parlait de l'épuisement professionnel qui guette aussi les indépendants.
Hors du commun, c'est donc dans une maison à Colombages, à Andolsheim, près de Colmar, dans le Haut-Rhin. Merci beaucoup Marina Petroucheva.
Merci énormément Dorothée Barba et merci beaucoup de nous avoir mis en lumière sur cette belle station de radio que j'aime particulièrement, donc c'est vraiment un honneur.
Ça fait plaisir. Très bonne journée à vous. Au revoir.
Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir.
D'autres initiatives dans le Haut-Rhin, signalées là aussi par des courriels d'auditeurs et d'auditrices. Voici le message d'Olivier, qui est pisciculteur et auditeur attentif. « Vous parliez, il y a peu de temps, d'adopter un flamant rose », écrit-il. « Eh bien, dans le Haut-Rhin, on peut parrainer un saumon. La première pisciculture d'Europe a vu le jour à la petite Camargue alsacienne, une réserve naturelle située dans la région des Trois Frontières, France, Allemagne, Suisse. Cette réserve est gérée par une association qui s'est lancée, entre autres, dans un projet de réintroduction du saumon dans le Rhin. On élève aujourd'hui des poissons pour repeupler les rivières, m'écrit Olivier. Et le parrainage coûte 5 euros par saumon. Rendez-vous sur le site de la Petite Camargue alsacienne. Et puis le courriel de Pierre-Jean, quant à lui, présente l'association Bretz Maraude, des maraudes au pays du Bretzel. Donc, cet asso distribue chaque dimanche un repas fait maison aux personnes démunies, sans ressources ou sans abri de l'agglomération de Colmar. Cette distribution se fait à vélo, grâce à une formidable équipe de bénévoles, précise cet auditeur. Et je vois sur leur page Facebook que Bretz Maraude est en recherche de nouveaux bénévoles. Voilà, pour retrouver les liens vers les sites internet de ces initiatives, les saumons et les maraudes, rendez-vous sur le site des carnets de campagne à la rubrique Les brèves des carnets.
France Inter, carnet de campagne.
Sachez que la Normandie est bientôt au programme, plus précisément l'Eure et le Calvados. J'attends vos messages. Si vous connaissez des gens géniaux ou des initiatives réjouissantes dans les départements numéro 27 et 14 du côté d'Évreux et de Caen.
Carnet de campagne avec La Belle Énergie, fournisseur d'électricité renouvelable et française. Ensemble, agissons pour un monde plus vert. La Belle Énergie, tant qu'elle est verte.
Et il est midi 46. Voici à présent le jeu des 1000 euros sur France Inter, également dans le Haut-Rhin. Nicolas Stoufflet.
Chers amis, bonjour. Quel est le point culminant du massif des Vosges? On est très près ici de ce point culminant qui est le Grand Ballon. À Mauches, nous sommes dans cette commune de Mauches. C'est une commune, un village de 1642 habitants, c'est précis. Monsieur le maire me regarde, c'est ça? Vous avez compté les habitants ce matin? On est à 1642 habitantes et habitants, les Mauchoises et les Mauchois. Et nous sommes dans une vallée, la vallée de la Ture, sur l'axe Mulhouse-Col de Bussan, et dominée par le Grand Ballon, donc, dont on vient de parler. Notamment, ici, ce sont des collines qui sont autour de la commune, qui sont sur le territoire de la commune de Mauches, en particulier la colline de la Vierge, qui a toute une histoire. En 1916, les autorités civiles et religieuses ont fait le serment de construire sur l'une des collines du village une statue dédiée à la Vierge, si le village était épargné par les bombardements. Et ils avaient pris l'engagement de se rendre à ses pieds en procession chaque année le 15 août. C'est ce que font toujours les habitants de Mauches et des environs. Enfin, certains habitants, évidemment. C'est un bel ouvrage au sommet duquel donc se trouve cette statue qui a été édifiée dans l'entre-deux-guerres. Et depuis, on se réunit pour l'ascension et pour l'assomption, en fait. L'ascension de la colline, le jour de l'assomption. Au pied de cette colline se trouve une nécropole militaire où sont enterrés plus de 500 poilus morts pendant la bataille du Vieil Armand en 1915. On reparlera au cours de la semaine, parce qu'on n'est que mardi, de ce cimetière, de cette nécropole militaire, d'autant plus que c'est un lieu qui, depuis peu, est maintenant inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. À Mauches, dans le département du Haut-Rhin, on est haut-rhinois ici, en Alsace, un binôme pour les questions et surtout pour les réponses, Ève-Catherine Kunzmann et Loïc Leleu. Bonjour Ève-Catherine.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez Sandheim?
Oui, c'est bien ça.
Même département, le Haut-Rhin. C'est loin d'ici, Essentheim ?
Oh, ça a 30 minutes en voiture.
Vous y exercez le métier de pharmacienne.
Oui, c'est exact.
Vous avez une passion ?
C'est la couture.
Vous créez vous-même vos vêtements ?
Oui, c'est exact.
Alors, nos auditrices et nos auditeurs doivent s'imaginer que vous portez, Eve Catherine, un sweatshirt ou un polo que vous avez fabriqué vous-même, qui est absolument superbe. Vraiment, c'est Merci. Vraiment superbe. Et qu'est-ce que vous avez mis ? Ça scintille un peu, ça brille un peu ?
Oui, c'est une maille Lurex.
Vous fabriquez tous vos vêtements vous-même ?
Quasiment, oui.
Et pour la famille aussi, pour les proches ?
Non, c'est déjà suffisant pour moi.
Ah oui, j'imagine. Vous avez du temps quand même à consacrer à ces créations, parce que le métier de pharmacienne est très prenant, j'imagine.
Oui, mais ça permet de s'évader, et puis une passion, on compte pas le temps.
Parfait. Eve Catherine, bienvenue avec Loïc Leleu. Bonjour Loïc.
Bonjour Nicolas.
Alors je m'entraîne sur la prononciation des noms alsaciens. Je fais de mon mieux. Je vais me lancer à propos du nom de la commune que vous habitez. Vous me reprenez si je me trompe. Vous habitez Usseren-Vesserlin ?
Parfait Nicolas.
Waouh. Usseren-Vesserlin. Où se trouve cette commune ?
Elle est un peu plus loin dans la vallée vers Bussan. C'est vraiment le fond de la vallée de la Ture.
De la Ture ? Oui, c'est ça. Donc en direction du col de Bussan.
Exactement.
Donc vous êtes vraiment dans les Vosges, vous ?
Ah là, oui.
Qui faites-vous ? Quel est votre métier, Loïc ?
Moi, je suis cuisinier dans un cirque, le cirque Equinote, cirque équestre du coin.
Génial.
Que je salue, il y en a quelques-uns qui sont dans la salle.
Super. Racontez-moi l'histoire de ce cirque.
Voilà. C'est un cirque qui a 12 ans, qui a été créé par un couple de paysans, qui est basé sur le cirque équestre en musique, et qui a pris de plus en plus, qui a grandi au fur et à mesure. Et moi, je suis arrivé avec eux il y a 3 ans.
Des spectacles équestres.
Et donc, vous faites
la cantine.
Oui, je fais la cantine.
Ouais. C'est important, hein ?
Ah bah, il faut.
Eve Catherine Kunzmann, Loïc Leleu. Première question bleue d'aujourd'hui, une question qui nous vient de Colomiers, en Haute-Garonne, et qui a été envoyée par Grégory Pouget. Quelle est cette voie fluviale qui fait la jonction entre le lac Ontario et l'océan Atlantique ?
Le Saint-Laurent ?
Mais oui, on est au Canada et c'est le Saint-Laurent. Bonne réponse. Le lac Ontario, qui est le plus oriental des grands lacs, et ses eaux s'évacuent via le fleuve Saint-Laurent, car c'est bien un fleuve. Question bleue de Gilles Giordani, qui justement, c'est amusant, cet enchaînement des choses, habite Montréal au Canada, et Gilles nous écoute sur franceinter.fr. Et c'est amusant aussi, puisque c'est une question cuisine, Loïc. Et Eve Catherine, je ne sais pas si Eve Catherine fait de la cuisine de temps en temps, Eve Catherine ?
Oui, j'aime bien manger, donc...
Oui. D'accord. En cuisine classique française, quelle est la différence entre une brunoise et une julienne ? Je ne sais pas si vous faites ça, Loïc, pour les membres du cirque.
La brunoise est plus longue que la julienne ?
Oui, donc alors...
C'est la coupe qui est légèrement différente.
D'accord. Donc la brunoise, c'est plutôt des...
C'est plutôt des cubes.
Oui, et la julienne ?
La julienne, c'est plutôt des petits bâtons.
Bonne réponse. Vous avez bien précisé les choses. Aux petits oignons, la réponse. Une découpe avec précision. Question bleue de Michel Jonquet à Nîmes. Question postée sur franceinter.fr, les pages en ligne. Quelle est la deuxième montagne la plus haute du monde après l'Everest ?
Forcément dans l'Himalaya.
Ouais.
Moi, je dirais que c'est le cassette.
Cassette ?
Ouais. C'est ça ? Le
cassette ? Le cassette ? Alors, il y a une partie de la réponse qui est bonne.
Le K2.
Oui. Vous pensiez aux cassettes
c'est ça, parce que... on hésitait entre les deux.
Oui, d'accord. C'est le K2, bonne réponse, le K2. Dans l'Himalaya, Asie centrale. Entre la Chine et le Pakistan, le K2 dont l'ascension est très difficile, surtout en hiver. Quasiment impossible, je crois, en hiver. Question blanche, une question carte postale, c'est bien ça, envoyée par Janine Herrero à Toulouse. Quel est ce terme qui désigne à la fois un oiseau du Mexique et l'unité monétaire principale du Guatemala ? Oiseau du Mexique, unité monétaire principale du Guatemala.
L'Équateur.
L'Équateur, ce n'est pas ça.
Non. Ah mince. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Vous pouvez répéter la question ?
Je répète la question bien volontiers. Quel est ce terme qui désigne à la fois un oiseau du Mexique et une unité monétaire, celle du Guatemala ? C'est le même mot. Question reposée tout à l'heure, Eve, Catherine et Loïc. Et vous qui nous suivez, avez-vous la réponse ? Peut-être déjà, ou peut-être cherchez-vous aussi. Vous continuez à jouer avec nous, de toute façon. Question blanche de Monique Tessier de Bouchemaine, près d'Angers. Quelle est la première étape de vinification une fois les raisins foulés et mis en cuve ? Quelle est la première étape de vinification une fois que les raisins ont été foulés et mis en cuve ?
La presse ?
Ce n'est pas la presse.
La fermentation ?
C'est la fermentation. La première étape est la fermentation, qui correspond au processus durant lequel les levures vont consommer les sucres présents dans le jus de raisin pour former, entre autres, de l'alcool, transformation du mou en alcool. La fermentation. Et la question rouge de Pascal Cérégeau à Bordeaux. Il faut trouver le nom d'une côte correspondant à la région côtière du Pays de Caux, donc en Normandie sur la Manche. Cette côte couvre une grande partie du littoral du département de Seine-Maritime. Comment l'appelle-t-on ?
C'est le Cotentin ?
Ce n'est pas le Cotentin. Le Cotentin, c'est plus haut. Et là, c'est vraiment une côte. Hein. C'est la côte, mais de quoi ? Quel nom lui donne-t-on ? Le Cotentin, c'est le département de la Manche. Là, c'est la Seine-Maritime. Des falaises crayeuses. Dieppe, Etretat, etc. Sur une côte dont on trouvera le nom peut-être tout à l'heure. Eve, Catherine Kunzmann et Loïc Leleu. C'est le moment sur France Inter où je vous repose les questions. Attention, 15 secondes maximum, une seule réponse à chaque fois. D'abord cette question blanche de Janine Herrero à Toulouse. Quel est ce mot qui désigne à la fois un oiseau du Mexique et d'Amérique centrale, aux plumes vertes et rouges, et une unité monétaire, l'unité monétaire principale du Guatemala. Une proposition ?
Le condor ? Non.
Ce n'est pas cet oiseau-là. Je vais tenter peut-être d'avoir une réponse parmi le public ici présent. Alors je vais aller voir monsieur, pardon pour les autres. Bonjour monsieur, quel est votre prénom ?
Norbert.
Où habitez-vous Norbert ?
À Tannes.
Ah bah c'est tout près Tannes, hein. C'est la ville, il y a Tannes, il y a Cernay, et donc ici on est à Mauche. Norbert, quelle est votre réponse ?
Le Quetzal.
Le Quetzal, c'est ça Norbert, t-shirt France Inter pour vous. C'est le nom de l'oiseau, c'est le nom de l'unité monétaire. Quetzal. Quetzal. Question qui permet à Janine Herrero à Toulouse de gagner 30 euros. Et la question rouge reposée à Eve, Catherine et à Loïc, nos candidats d'aujourd'hui. Question de Pascal Cérégeau à Bordeaux. Je vous demande toujours, au nom de Pascal, le nom de cette côte. Elle correspond à la région côtière du Pays de Caux sur la Manche, Seine-Maritime principalement, 130 km de longueur avec Dieppe, Etretat, avec des falaises crayeuses. Comment appelle-t-on cette côte normande ? Cette partie de la côte normande.
Bon, un peu au hasard, mais on va dire la côte d'Argent.
Ce n'est pas la Côte d'Argent, là aussi. Un micro tendu vers peut-être une dame cette fois-ci. Pour la parité, la mixité à laquelle on tient beaucoup au jeu des 1000 euros. Bonjour madame, et sur France Inter de façon générale. Bonjour madame, quel est votre prénom d'abord ?
Diane.
Où habitez-vous Diane ?
À Mauche.
Diane, vous êtes mauchoise. Quelle est votre réponse ?
La côte d'Albâtre.
Exactement, t-shirt France Inter pour vous aussi. C'est la côte d'Albâtre, le nom de cette côte, de cette partie de la côte normande. Falaise crayeuse. Étretat, Dieppe, on voit très bien cette l'aiguille creuse, par exemple, fait partie de la côte d'Albâtre. Pascal Cérégeau à Bordeaux gagne 45 euros. Ève-Catherine Kunzmann et Loïc Leleu, vous avez gagné 75 euros. Ainsi que le livre d'André Manoukian, Les chroniques musicales. Il y en a 42 au total, réunis dans cet ouvrage intitulé Les pouvoirs extraordinaires de la musique, coédition France Inter, HarperCollins. Merci de nous suivre. Et pour le spécial jeune, à demain, si vous le voulez bien.
Je vous rappelle qu'un enregistrement, des enregistrements du jeu des 1000 euros sont prévus ce jeudi dans l'Aisne à Fère en Tardenois à 17h et à 18h30.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
Zadig et Arte s'associent le temps d'un hors-série pour réfléchir à l'Europe telle qu'on la vit et telle qu'on la rêve. Récits, enquêtes et reportages signés par des intellectuels, des artistes et de grandes